Incroyable, un épisode de lundi de Pâques avec ma musique beaucoup trop forte. Bienvenue à Angle Mort, madame, ici aujourd'hui Marie-Louise Arsenault, à Tout le monde en parle, et le départ de Jeff Fillion. Ça fait que, ouf, assisez-vous, il va y avoir du jus. J'ai passé un très beau week-end, franchement, très très beau week-end, le fun. Là, on est lundi, 4 jours de congé, ça paraît, je trouve ça très intéressant. Par contre, il faudrait que je travaille un peu aujourd'hui pour prendre de l'avance. Est-ce que je vais le faire? Je ne le sais pas parce que j'enregistre l'épisode un peu tard. Je suis allé bruncher avec Red Fred et Black Mike. Et puis, j'attends que l'après-midi avance parce que je vais partir. Il faisait 0 ce matin, il va faire 10 en fin de journée. Ça vaut la peine d'attendre un petit peu. Je me suis dit, ah, ça doit être un lundi off. Je leur fais surtout, vraiment, j'ai du jus. Je vais commencer par Marie-Louise Arsenault. Alors, Marie-Louise Arsenault, qui est dans le paysage radio-canadien et autres depuis longtemps, que je connais pas perso, je n'ai jamais rencontré ni rien. On n'est clairement pas sa même ligne, c'est-à-dire qu'elle est très Marc Cassivi. Et puis, par contre, je l'ai vue dans son émission Dans les médias, qui est une émission super intéressante. Puis, tout comme Guillaume l'a dit hier, dans ce qu'on appelle un hot seat, là, c'est-à-dire une entrevue one-on-one assez serrée, je lui confère un vrai talent puis une vraie compétence. Elle est très, très, très bonne. Maintenant, j'ai compris, parce que je ne l'écoute pas, j'ai compris qu'elle était dans des mouvances. Là, Sophie Durocher, il est tombé dessus avec un titre drôle. Son article s'appelait « Plus on est woke, plus on lit ». Je trouve ça très drôle. Ça fait que c'est ça mon rapport à elle, parce que je trouve que le contexte, quand on parle ou on revient à ses propos de quelqu'un, c'est un petit peu important, je pense, qu'on sache où est-ce qu'on se situe. Alors, il y a deux affaires qu'elle a dit hier qui m'ont vraiment interpellé. La première, c'est quand elle a dit pourquoi elle arrêtait après 11 ans, une émission qui venait, semble-t-il, d'avoir ses meilleurs codes d'écoute. Une émission, la seule qui me fait mentir quand je vous dis il n'y a pas d'émission de littérature, parce que tout le monde s'acharne à mettre ça plate. À télé, ça reste vrai, mais elle, chaque jour, 2 heures de temps, à l'heure du midi, elle parlait exclusivement de livres, puis telle affaire. Puis, bien que je n'ai jamais écouté, manifestement, ça avait un vrai écho. Ça fait que je lui lève mon chapeau, parce que c'est pointu, tu sais, comme sujet. Ça devrait pas, le livre, il y a tous les sujets, mais... Et là, elle a dit, ouais, ben là, c'est parce que ma réalisatrice a dit ça à la fin. Je me dis, mais ils sont combien pour faire une émission de même? Mais c'est ça, Radio-Canada, tu sais. Quand Madonna Harper avait dit, on va couper 600 millions à Radio-Can, tout le monde disait, c'est épouvantable. C'est pas épouvantable, il y a minimum 600 millions de trop. Tu t'en vas là, il y a une réalisatrice, il y a un recherchiste, il y a un ci, il y a une patente. C'est comme, my God! Puis vous allez voir, je ne dis pas ça juste pour critiquer ce que le budget, ça ne me regarde pas ultimement. Là. C'est de leurs affaires, puis ils font de la bonne radio, mais moi, je faisais des lignes ouvertes, 90 minutes non-stop avec une question. C'est tout. Pas d'invité, pas rien. Point barre. 50 ans. Alors là, vous allez dire, ouais, mais c'est pas la même affaire, etc. Vous avez entièrement raison. C'est ça mon point. C'est pour ça que je veux vous parler des méthodes. Y a un philosophe très connu qui s'appelle Frédéric Nietzsche qui disait « Toute philosophie est une autobiographie. » Ce que je comprends de cette phrase-là, c'est que à chaque fois que quelqu'un émet un concept, une idée, une façon de voir, ben c'est tout le temps, dans le fond, sa personnalité qui parle. Quand Marie-Louise Arsenault a une équipe blindée puis qu'elle se prépare comme une malade, puis c'est ça qu'on comprenait, ben tu te rends compte que inévitablement ça fait partie de sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle doit se dire « Si je suis mal préparé, ça va être moins bon. » Qui peut argumenter ça? Ben moi. Parce que, selon la mission, selon ce que tu fais dans la vie, puis là, je sors des médias, hein, si vous m'écoutez puis vous travaillez dans une quelconque industrie, la préparation, c'est une vertu, mais pas tout le temps. Parce que ce que peut cacher la préparation, c'est aussi étouffer ce qui pourrait arriver. Hein? La fameuse phrase « L'avenir, faut pas le prévoir, faut le permettre ». Mais c'est la même chose dans le quotidien. C'est la même chose lors d'une conversation. C'est la même chose dans une relation. C'est, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la place pour qu'il arrive des choses. Si ton émission est blindée à chaque 15 minutes, tu as le bloc 1, le bloc 2, la patente, j'ai rien contre. Si les résultats sont là, super. Mais c'est pas vrai que c'est la seule façon de faire. Tu peux être bien slack, comme moi, puis avoir des vrais résultats, des vrais commentaires, puis tu te rends compte que ça marche pour vrai. Maintenant, dans mon cas, comme dans le sien, je prêche pour ma paroisse parce que je suis quelqu'un qui est un roi de la loi du moindre effort. Moi, j'ai pris connaissance, il y a des décennies de ça, de la loi de Pareto, qui dit que 80% de nos efforts donnent juste 20% des résultats et vice-versa. Puis je m'étais juré de renverser ces proportions-là, puis j'y arrive vraiment bien. Ça veut dire que moi, dans la vie, là, quand je sais que tel geste va faire vraiment la différence, je m'en occupe. Puis tel autre geste va changer à peu près rien, je ne m'en occupe pas. Donc, c'est un peu la définition d'un botcheux, mais botcheux stratégique. C'est pas botcheux parce que je suis lâche. C'est botcheux parce que je me dis, non, je ne ferai pas cet effort supplémentaire-là qui va me donner au final 83 % au lieu de 80, comprenez-vous? Fait que c'est juste ça le point que je voulais souligner, c'est que Mme Arsenault, son succès, je pense, vient de son travail, de sa préparation, puis de son talent, parce que je le répète, je l'ai vu quand à l'interview, tu sais, elle sait ce qu'elle fait, puis c'est vraiment, elle est vraiment bonne. Mais je viens d'ailleurs, puis j'ai pas la même école. C'est, son école lui ressemble, la mienne me ressemble. Mais je fais juste souligner que c'est pas vrai, cette espèce de discours-là, qu'il faut toujours être mieux préparé, parce que ça vient aussi avec un pacing figé, puis une façon plus rigide de faire les choses. Voilà, je pouvais pas mieux vous le dire. Maintenant, l'autre point, sont tombés sur... Je trouve ça très important de définir le mot « woke ». Puis c'est le fun parce qu'elle a fait quelque chose que peu importe si on est de droite ou de gauche, qu'on soit... Peu importe nos allégeances, quand un terme n'est pas 100 % archi-précis, comme « voici une chaise », donc le terme « woke », bien, on se plaît souvent à dire « ouais, mais ça veut dire quoi? Ça, on le sait pas. » On fait pareil avec l'extrême droite, dans l'exact contraire. « Ouais, mais c'est quoi l'extrême droite à la fin? » Mais la réalité, c'est quoi? Que c'est très clair ce que c'est. Puis ça l'est pour tout le monde. C'est ce que moi, j'appelle la gauche des sensibilités. T'sais. Puis le problème, comme elle dit, woke, ça vient d'éveiller. Puis elle dit elle-même, elle dit, qui est contre l'idée de d'être éveillé aux injustices sociales? Ben, entièrement raison, on n'est pas contre la vertu. Le problème, c'est quand on en voit partout, qu'on en voit tout le temps. Puis l'autre problème, c'est quand on s'oppose à cette vision-là, qui n'est pas par définition scientifique dans chaque... Voici, c'est de même, c'est clair. Ben, tu sens, il est où le malaise? Hier, quand M.C. Gilles parlait avec Mme Arsenault de ce mini 1% de débat-là, mais le malaise qu'on a, nous autres, dans le salon, c'est pas du côté de Marie-Louise Arsenault, c'est du côté d'M.C. Gilles. On se dit, hey, boy, il sent... Ouh, tu sais? C'est qu'on sent que cette pensée dite woke amène une frilosité autour. On la sent tout le temps. Tout le monde le sait, ça. Ça fait que la réponse qu'elle a donnée, c'est la réponse de quelqu'un qui aime pas qu'on l'affuble de ça, puis qui aime pas l'idée qu'on pourrait avoir des bémols là-dessus. Et je répète, c'est pas propre à elle, c'est propre à tout le monde qui est pas content de la définition d'un terme, puis qui va essayer de le rendre comme tout diffus. Mais il y a rien, moi je viens de vous le faire, là. C'est quoi? Wow, c'est pas compliqué, là. Ça fait que, est-ce que ça a des contours archi-clairs? Non, mais c'est le... Le résumé de tout ça est assez simple. Fait que c'est les deux choses que je voulais dire par rapport à son entrevue, qui a été très intéressante. C'est que, je le répète, on n'est juste pas sur la même ligne de sensibilité. Et c'est très cassivi, son affaire. Puis ça m'empêche absolument pas d'y reconnaître un vrai talent. Puis son espèce d'émission qu'elle va faire à la radio samedi soir, 3 heures de show, il y a déjà un concept. La fille, elle travaille vraiment bien. Ça fait que je lui souhaite tout le succès possible. Jeff Filion, mesdames, messieurs. Alors, Jeff Filion est parti. Et je vois beaucoup d'articles qui disent « Est-ce que c'est la fin de ce type de radio-là? » Et c'est mon point, puis je vais vous dire pourquoi. J'ai trouvé que le départ de Jeff Filion de Choix a été un non-événement total. Alors, ça a fait effectivement la manchette à Montréal, à Québec, etc. Mais il n'y a pas eu de remous. Il n'y a pas eu de ces genres de réactions. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été la fois qu'il s'était fait... qui était parti d'énergie parce qu'il a fait un tweet sur un propos d'Alexandre Taillefer, etc. T'sais, tu sentais que c'était très Jeff Filionesque, c'est-à-dire ça crée là, toutes sortes de polémiques, etc. Alors, vous allez dire, ben, il n'y a pas de nouvelles épouvantables à dire « je m'en vais ». Oui, à quelque part, parce que ce gars-là a des résultats comme personne d'autre. Dans le public cible qui est 25-54, le gars frôle le 40 parts de marché. Je veux dire, quand une émission a au-dessus de 20 parts de marché, Paul Arcand en a comme 22, là. Ça fait que quand c'est rendu que tu as le double de ça dans ton créneau horaire, c'est parce que c'est sérieux, tu torches à côté. C'est que moi, j'ai été un peu surpris de ça, mais c'est peut-être juste moi, là, mais j'ai été un peu surpris. Ma théorie, c'est que c'est la fin d'un cycle. C'est. Jeff Filion s'en va et je pense pas que la radio André Arthur, la radio Jeff Filion, la radio polémique de chiolage, pas d'opinion, c'est très différent. Qui a été le succès de beaucoup d'animateurs. Dans le temps à Montréal, tu avais Pierre Pascot, tu as eu Gilles Proulx, André Arthur, Jeff Fillion, mais pas que. Parce que tout à coup, toi aussi à Québec, les gens ont l'air de dire, quand c'est l'appellation Radio Poubelle, Gilles Parent a fait la pluie et le beau temps pendant des années. Robert Gillet, avant de faire ses frasques pédophiles, était un animateur qui n'était pas du tout dans cette mouvance-là, puis qui avait une crédibilité incroyable avec des résultats vraiment top, tu sais. C'est fait que, moi, je le dis souvent, tu sais, c'est comme si tout à coup, depuis 20 ans, tout le monde a essayé de faire du choix FM. Comme si la ville de Québec était exclusivement composée de ce type d'auditeurs-là. C'est la deuxième ville au Québec. Il y a une université, il y a quatre cégeps. L'Assemblée nationale, des fonctionnaires à la tonne. C'est du monde qui sont à l'école, là. Alors que choix, puis que Radio X marche, fantastique. Très heureux pour eux autres. Mais c'est comme si tout le monde a tout le temps dit « Ah, ben ça, c'est la sauce qui marche à Québec. » J'ai jamais cru à ça vraiment, mais c'est pas moi qui décide comment ça marche puis qui est en onde. Moi, tu vois, je m'insère pas du tout là-dedans. Mais j'ai rien contre. C'est comme, ils font une radio qui marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis pas obligé d'être sur la même ligne, mais c'est bravo, tu sais. Ça fait que tout ça me fait dire que c'est la fin d'un cycle. Que à quelque part, c'est comme si... Quand Jeff Fillion s'en va, c'est comme toute cette espèce de c'est cette mouvance-là médiatique, radiophonique, qui part avec lui. Puis il a comme réussi à faire quelque chose qui était de très grande envergure en termes de résultats, mais c'est limité à ça. La croissance est impossible parce que je pense que démographiquement, tout le monde qui avait à écouter cet animateur-là le faisait. Ça fait qu'il y a comme tout le reste qui peut être pris. Est-ce que ça va être fait? J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. Est-ce que Choix va décider de remplacer l'animateur du midi par quelqu'un qui n'est pas dans cette ligne-là pour élargir un peu, comme ne l'était pas d'ailleurs l'animateur du retour qui est rendu à Boulevard, dont j'oublie le nom momentanément, là, mais ce gars-là n'était pas sur la même ligne que Moret ou que Fillion. Il ne suscitait aucune polémique, il était très rassembleur, c'était la fin de la journée, etc. Il a fait ça pendant plus de 20 ans. Fait que cette antenne-là est plus variée que ce qu'on pense. Mais évidemment, tu sais, quand on ne l'écoute pas, ben on entend quand quelqu'un parle. Puis c'est rare que tu entends dire « Wow, on va faire une grande nouvelle, là, ça passe dans la presse, dans le Journal de Québec, sur le fait que tel animateur à Choix a dit quoi de vraiment le fun. » Puis les gens ont appelé, puis c'était super. Tu sais, c'est tout le temps un peu le scandale qui fait parler du média. Habituellement, c'est souvent de même. Ça fait qu'après ça, ben, on prend ça puis on se dit « Ah, ben voilà, c'est l'antenne au grand complet. » Ça fait que moi, je les écoute pas là, à Choix. C'est pas que je les écoute, mais je sais trop comment ça marche. Puis qu'il y a probablement déjà une variété qui existe à l'antenne qui n'est pas que dans la ligne de Jeff Fillion. Ça fait que c'est mon hypothèse. La suite va être très intéressante parce que est-ce qu'il y aura réellement des changements dans le thinking de qui est en onde à Québec parce que ça touche pas Montréal? C'est à voir. Je pense, moi, que c'est la fin d'un cycle. Qu'il y a eu André Arthur, il y a eu Jeff Fillion, avec les succès qu'on connaît. Puis je pense pas que quelqu'un d'autre peut arriver puis être dans la même mouvance, puis dans la même direction, puis avoir un succès équivalent. C'est pas mon feeling. Puis je me base, je vous le dis, là, je me base au fait que c'est comme si ça passait crème. C'est comme une lettre dans la poste. Puis coup, ah, c'est fini. Jeff Fillion, c'est fini, comme ça. Il y a quelques années, ça n'aurait pas fait ça. Là, quelques années, il y aurait eu des téléphones, il y a eu des rumeurs partout. Ah, là, il va s'en aller là, t'as la fin. Là, tout à coup, c'est comme... Whoop. Puis moi, à sa place, je ferais exactement ça. Là. Lui, il y a une radio Internet, Radio Pirate, qui a l'air de marcher très bien. T'sais. Le gars va être comme moi avec mon podcast, sauf que lui marche avec des abonnements et tout, puis il y a un fonds de commerce depuis... Ça fait qu'il fait des vrais revenus avec ça. T'sais. Ça fait que c'est parfait. T'sais. C'est vraiment... Il a brûlé le marché... Puis il s'en va dans ses affaires qu'il a développées. C'est un plan. Moi, je lève mon chapeau sur son format. C'est, regarde, il est plus wise que toutes les autres, moi inclus. Là. Il a vraiment bien fait ça. Ça fait qu'à suivre, ça va être très intéressant. Et moi, je m'en vais en vélo et je vous souhaite bonne journée.